Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. C'est un homme de grande stature spirituelle, doté d'une intelligence politique fine. L'hommage de l'archevêque d'Alger, Monseigneur Paul Defarge, après la mort de l'archevêque Desmond Tutu, figure de la lutte contre le régime d'apartheid. L'archevêque d'Alger sera notre invité. Monseigneur Paul Defarge, qui sera remplacé le 11 février prochain par Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran depuis 2012. De nouvelles mesures en France face à la flambée des cas de contamination au Covid-19. Le recours au télétravail sera obligatoire après les vacances de Noël pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine, 4 jours quand cela est possible. L'épidémie de Covid-19 fait rage aussi dans les centres de rétention administrative. Les associations d'aide aux migrants dénoncent l'absence de mesures de protection efficaces dans ces centres fermés. Nous écouterons Marion Beaufils, juriste à la CIMADE. La préfecture de l'Oise acte la fermeture de la grande mosquée de Beauvais pour 6 mois. L'association qui gère le lieu de culte est accusée d'avoir diffusé des prêches radicaux. De nombreux hommages après la mort de l'archevêque Desmond Tutu, figure de la lutte contre le régime d'apartheid. Il est décédé dimanche dernier au Cap, en Afrique du Sud, à l'âge de 90 ans. Entretien avec l'archevêque d'Alger, Monseigneur Paul Defarge, qui salue un homme qui a une stature internationale qui dépasse le clivage religieux ou politique. Monseigneur Paul Defarge, l'archevêque d'Alger.
Un guide spirituel, il a contribué énormément à la fin de l'apartheid, mais non seulement à cela, mais il a montré comment on ne pouvait aller vers la paix que si on était à la fois dans la vérité, reconnaître la vérité, et en même temps accepter de continuer à vouloir vivre ensemble en allant vers le pardon, et donc la reconnaissance que l'ancien ennemi devient un frère. C'est un homme de grande stature spirituelle et en même temps d'une intelligence politique forte, enfin fine.
Et vous le dites, vous évoquez un guide spirituel.
Oui, parce que nous sommes dans des questions de conflit, par exemple entre l'Algérie et la France, en reconnaissance mémorielle. Il y a des pays qui se sont affrontés, où il y a des blessures profondes, la situation injuste de la colonisation. Comment on va en sortir ? En faisant la vérité, telle, si douloureuse soit-elle, mais en même temps, on n'en reste pas là. C'est-à-dire que l'autre, ceux qui étaient avant adversaires, ou je ne sais pas comment les appeler, on est appelé à vivre ensemble. C'est cela, je crois, que Mgr Desmond Tutu, Nelson Mandela ont compris l'un et l'autre qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui élimine l'autre ou un qui domine l'autre ou un qui remplace l'autre dans la nomination. Il faut qu'on aille plus loin. On est fait pour vivre ensemble et donc se reconnaître comme des partenaires de marcher ensemble dans une fraternité ou des peuples qui font ensemble le chemin, qui se respectent et qui probablement ont des choses à se donner les uns aux autres. Il n'y a pas d'autre solution. On est fait pour vivre en paix. Mais il faut que chaque peuple reconnaisse la beauté, la grandeur, la vocation, et respecte l'autre, et que l'on fasse la vérité sur les blessures du passé.
C'est un principe de vie, ce que vous nous dites là, la réconciliation qui passe par l'établissement de la vérité.
C'est ça qui a été fort en Afrique du Sud, c'est réconciliation et vérité. Pas de réconciliation sans vérité. Mais pas une vérité pour accuser, pour enfoncer l'autre. Une vérité qui permet de se dire, ben oui, il y a eu ça, mais je ne t'enferme pas dans les blessures que tu m'as faites. Et je ne m'enferme pas non plus comme victime à vie du mal qui m'a été fait. Vous voyez, ni l'un ni l'autre, on a à s'enfermer, ni dans les blessures que l'on a reçues, ni dans le mal qu'on a pu faire à l'autre. Chaque peuple est plus que le mal qu'il a subi ou qu'il a fait. C'est vrai pour chaque personne, hein, mais je le crois vrai aussi pour chaque peuple, pour chaque nation. Vraiment.
Et cet homme, Desmond Tutu, c'est une source d'inspiration pour les peuples et pour l'ensemble de leurs composantes.
C'est vraiment une source. D'ailleurs, je suis très, très heureux. Je vois que l'Algérie, dans la presse, en parle très largement. Ça me réjouit. Ça veut dire que c'est un homme qui a une stature internationale, qui dépasse les clivages religieux, politiques. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est justement à cause de cet aspect qu'il a toujours tenu ensemble, vérité et réconciliation.
Et c'est un parcours qui mérite d'être enseigné, c'est ce que vous nous dites.
Ah, je crois, oui. Et c'est bon d'en avoir des exemples. Nelson Mandela et Desmond Tutu, ils sont arrivés à quelque chose. Ça marche, j'allais dire. On peut avancer tous les pas. Oui, les peuples, après, on continue. Mais quand même, on a des exemples historiques qui font que, bon, ben, on peut dire oui, ça vaut la peine, c'est possible. Et on est fait en plus pour ça. Enfin, les peuples sont faits pour vivre ensemble.
À l'heure où l'on peut constater une forme de repli sur soi.
D'enfermement dans un certain nationalisme étriqué ou trop identitaire, où le religieux est asservi aux politiques. Tout ça, c'est triste parce que ça crée de la tension et ça fait de la violence. C'est triste, oui. Mais justement, on a un homme qui nous dit non. Comme on avait eu Martin Luther King, Gandhi et d'autres, des hommes qui disent oui, non, c'est possible. La paix et la fraternité entre les peuples est possible. On peut grandir, on peut avancer. Alors c'est vrai qu'il faut une densité spirituelle de ces hommes qui fait qu'on est des petits enfants de cœur à côté, mais ça vaut la peine de les accueillir, de les écouter, de les étudier.
Notre-Dame d'Afrique va lui rendre hommage.
Ou bien à telle ou telle occasion de conférence ou de séminaire, il sera évoqué certainement, oui, bien sûr.
Et vous le faites à travers cette intervention.
Ça je vous en remercie, j'en suis très 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 heureux. Oui, je suis très très heureux de pouvoir dire combien ce départ nous touche, me touche. Mais je crois à la postérité de ce que des hommes comme ça produisent. Ça fait son chemin dans les consciences. Et je pense que beaucoup d'hommes d'État ne peuvent pas ne pas être saisis par le témoignage de ces hommes.
Son influence perdurera.
Je crois. Et en plus, on en a vraiment besoin aujourd'hui. On en a vraiment besoin aujourd'hui. Notre monde qui a peur, où les tensions ont plutôt tendance à grandir, on a là un homme qui nous dit, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de croire que c'est pas possible qu'on ait fait pour le conflit, la bagarre, c'est pas vrai. Et surtout que des situations qui ont été pendant longtemps, des situations vraiment d'injustice profonde, grave, peuvent être dépassées. Et pas le dominant d'hier devient le dominé d'aujourd'hui. Et vice versa, non, on peut aller vers une reconnaissance des peuples. Quoi.
L'archevêque d'Alger, Mgr Paul Defarge, il sera remplacé le 11 février prochain par Mgr Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran depuis 2012, né à Lyon en 1962. Jean-Paul Vesco est entré dans l'ordre des Dominicains en 1995 après des études de droit et après avoir exercé la profession d'avocat. Il a été ordonné prêtre en 2001 puis s'est installé un an plus tard en Algérie au couvent dominicain de Tlemcen dans le diocèse d'Oran. Quant à Paul Defarge, il avait été nommé en décembre 2016 par le pape François après avoir été évêque du diocèse de Constantine et d'Hippone. Elle était prévue le 24 décembre avant d'être reportée un mois plus tard, mais le flou demeure sur la tenue prochaine de l'élection présidentielle en Libye. Une commission du Parlement libyen s'est refusée hier à fixer une nouvelle date. Cette commission chargée du suivi des élections a préconisé la mise en place d'une nouvelle feuille de route réaliste et applicable en définissant ses étapes au lieu de fixer de nouvelles dates et refaire les mêmes erreurs. Les élections législatives prévues le 15 mai prochain au Liban, le Premier ministre libanais a annoncé avoir signé ce matin le décret paraphé la veille par le ministre de l'Intérieur, ce décret qui prévoit l'organisation du scrutin en mai prochain et non plus au mois de mars. Pour faire face au risque d'une nouvelle flambée épidémique en Algérie, le gouvernement a récemment annoncé l'instauration par étapes d'un pass vaccinal. Il sera exigé pour entrer et sortir d'Algérie, mais aussi pour accéder à divers lieux comme les cinémas, les salles de sport, les musées. Le gouvernement prévoit aussi d'intensifier les opérations de vaccination des fonctionnaires ainsi que de certaines professions des secteurs des services et du commerce. Le pays compte 6,7 millions de primo-vaccinés, soit environ 15% de la population, et 5 500 000 personnes qui ont eu 2 doses de vaccin. De nouvelles mesures en France face à la flambée des cas de contamination au Covid-19. Le Premier ministre a annoncé la réduction du délai entre l'injection et le rappel vaccinal. Il suffit de 3 mois après la précédente injection ou infection au Covid-19 pour bénéficier du rappel. Les jauges seront rétablies établi pour les grands rassemblements à partir du 3 janvier et pour au moins 3 semaines. Ils seront limités à 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 personnes au maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits et la consommation obligatoirement assise dans les bars et les cafés. Et le recours au télétravail sera rendu obligatoire à partir de la rentrée, à partir de lundi prochain, pour tous les salariés pour lesquels il est possible à raison de 3 jours minimum par semaine et 4 jours quand cela est possible. Et depuis un mois, l'épidémie de Covid fait rage aussi dans les centres de rétention administrative. Les associations d'aide aux migrants dénoncent l'absence de mesures de protection efficaces dans ces centres fermés. Marion Beaufils, juriste à la CIMAD.
Oui, c'est ce que je confirme. Il se passe dans les centres de rétention la même chose que partout ailleurs en France aujourd'hui. Une explosion des contaminations dans beaucoup de centres on intervient et avec le risque que ça se propage partout et sans que ce soit véritablement contrôlé puisqu'il y a tellement de promiscuité dans ces centres que c'est impossible d'isoler une personne qui serait testée positive. Les décisions qui sont prises la plupart du temps, comme dans les centres du Ménil-Amelot près de Roissy ou au centre d'Andaille, hein, où un cluster vient d'exploser aussi, c'est que les personnes qui sont testées positives sont isolées avec l'ensemble des personnes qui étaient enfermées dans le même bâtiment. Donc au Ménil-Amelot, par exemple, c'est par groupe de 20 personnes. Une personne positive, c'est 20 personnes isolées. Voilà, elles sont ensemble en fait. Elles sont ensemble. Après, les personnes qui sont à contact se sont testées. Et toutes les personnes positives sont mises ensemble et les personnes négatives sont séparées dans un autre bâtiment. Et au fur et à mesure que des personnes positives se font tester parmi les négatives qui sont devenues positives, il y a des roulements comme ça entre bâtiments. Mais on le voit, hein, ça se propage tellement vite que c'est quasi impossible d'isoler toutes les personnes contaminées, ou en tout cas ça prend des semaines et des semaines. Au Ménil-Amelot par exemple, ça fait pile un mois aujourd'hui que le cluster a été découvert et c'est toujours confiné.
Et donc qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux autorités ?
Nous on demande plusieurs choses. La première chose qu'on demande c'est que les protocoles tels qu'ils sont suggérés par les médecins des centres de rétention soient appliqués. Les médecins, ils demandent pas grand-chose, ils demandent un isolement systématique des personnes testées positives et ils demandent un test systématique à l'entrée en centre de rétention pour toutes les personnes qui arrivent, que comme ça on sait si elles ont un risque de contamination ou pas, parce qu'aujourd'hui on prend juste leur température, mais on sait très bien que c'est pas ça qui permet de protéger le reste des personnes enfermées. Donc on demande ça et on demande aussi que soient libérées systématiquement les personnes qui sont testées positives. Il y a plein de solutions pour continuer à suivre les personnes qui sont testées positives si jamais l'administration veut continuer à les suivre. Enfin, on le voit bien et on voit que dans certains centres de rétention, c'est ce qui est fait et ça fonctionne. Par exemple, à Toulouse, il y a un nouveau cluster qui est apparu, mais en fait, qui a été réglé tout de suite parce que les personnes ont été soit libérées, soit assignées à résidence. Et voilà, c'est terminé. Donc, au lieu de durer un mois, le cluster de Toulouse, il a commencé vendredi, il s'est terminé hier, et puis c'est tout.
Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans les centres de rétention. Malgré la crise sanitaire, on continue à placer des personnes en centre de rétention.
Oui, là, les centres sont pleins, tous pleins, alors que depuis, à partir du mois de mars 2020, il y a eu des jauges pour qu'il y ait un peu moins de promiscuité, qu'il y ait moins de monde dans les chambres notamment et dans les réfectoires parce que les gens mangent ensemble. Donc on a eu des jauges à plusieurs seuils. Et là, depuis le mois de septembre 2021, on est repassé à 100% de taux de remplissage. Donc là, c'est plein. Au centre de rétention numéro 2, là, au Ménil-Amelot, à côté de Roissy, il y a presque 100 personnes.
Est-ce que vous suivez aussi la situation sanitaire des personnes en centre de rétention, si elles ont reçu une première, une deuxième dose, voire une troisième dose ?
Elles sont suivies, hein, elles sont suivies. Il y a des unités médicales dans tous les centres, donc les personnes sont suivies. Il y a certains centres où les vaccins sont proposés, mais pas tous. Mais le personnel médical sait quelle est la situation sanitaire des personnes qui arrivent, elles savent combien il y a eu de vaccins, ou s'il n'y en a pas du tout eu. Enfin, voilà, tout ça, c'est compilé justement pour avoir un meilleur suivi des personnes. Elles suivent aussi les comorbidités, parce qu'il y a énormément de personnes avec des comorbidités, donc il y a une vraie vigilance pour ces personnes-là.
Est-ce que les expulsions continuent alors que certaines liaisons aériennes sont interrompues avec les pays dont sont originaires ces exilés ?
Les expulsions continuent, il y a des expulsions tous les jours. Après, c'est variable, effectivement, il y a des périodes où certains pays ferment leurs frontières et où les expulsions s'arrêtent temporairement, voire sur une très longue période, là, comme on voit avec l'Algérie. Mais il y a des pays pour lesquels les expulsions continuent. La Roumanie, on constate énormément d'expulsions, mais aussi là, ce week-end, par exemple, on a vu des expulsions vers la Géorgie, vers la Guinée. Enfin, les expulsions continuent.
Marion Beaufils, juriste à la CIMAD, elle répondait à Loïc Barrière. La préfecture de l'Oise acte la fermeture de la grande mosquée de Beauvais pour 6 mois. L'association qui gère le lieu de culte est accusée d'avoir diffusé des prêches radicaux incitant à la haine, à la violence et faisant l'apologie du djihad. Cette mesure confirme la procédure lancée il y a 10 jours par les autorités. Cette décision avait été annoncée publiquement par le ministre de l'Intérieur. Les responsables de la mosquée ont tenté ces 2 dernières semaines d'expliquer que les propos incriminés ont été sortis du contexte. Fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 12h16, à 12h30 votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire à l'occasion de la sortie de son livre « Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir » aux éditions du Cerf, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.